Radio Kapi.
Le gouvernement exige au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais et il lui est demandé au gouvernement de suspendre tous les protocoles d'accord et conventions conclus avec le Rwanda. Ceci ressort du Conseil supérieur de la défense de la RDC tenu hier tard dans la soirée. 70 personnes admises aux soins dans la ville de Kikwit. Elles présentent des symptômes notamment la diarrhée et les vomissements. Une situation intervenue après avoir participé à une fête de mariage dimanche dernier. Le maire de la ville de Kikwit pense que ces gens seraient victimes d'une intoxication alimentaire. La journée de l'enfant africain, c'est aujourd'hui, 16 juin. Mais dans l'est de la RDC, les groupes armés continuent de recruter des enfants dans leur rang, dans la région de Beni, Butembo et Lubero, au Nord Kivu. Pour en parler, nous recevons dans cette édition Bernard Okanda, de la section protection de l'enfant de la MONUSCO. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Conseil supérieur de la défense de la République démocratique du Congo dénonce une énième agression rwandaise et recommande au gouvernement de la RDC de suspendre tous les protocoles d'accord et conventions conclus avec le Rwanda. Au cours de sa réunion extraordinaire tenue hier mercredi tard dans la soirée, le Conseil supérieur de la défense affirme sa détermination de défendre chaque centimètre du territoire congolais et salue la forte mobilisation patriotique de la population. Il recommande par ailleurs au ministre de l'Intérieur et à la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature à troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Les détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et élargi au président des deux chambres du Parlement, la réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la Défense a dénoncé l'occupation et le pillage de la cité de Bunagana par le Rwanda et prend des mesures nécessaires. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement.
La République démocratique du Congo est déterminée à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Tirant les conséquences de cette situation, le Conseil supérieur de la Défense a pris des mesures suivant. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes du sol congolais. 2. La demande au gouvernement de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda.
Le Conseil supérieur de la défense recommande au gouvernement de doter à l'armée des moyens nécessaires pour défendre le pays.
A également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité, pour assurer la défense et l'intégrité du territoire national.
Il salue les efforts de paix et de médiation engagés par les présidents angolais et kényans et réaffirme la volonté de la RDC de poursuivre le processus de paix de Nairobi en cours.
Et puis, au Nord Kivu, en plus bref, 24 heures après la marche de soutien aux soldats des FARDC, toutes les activités ont repris normalement ce jeudi dans la ville de Goma. Ce, en dépit de quelques cas de dérapage enregistrés hier dans le centre-ville pendant les manifestations. Toujours au Nord Kivu, l'armée a lancé une offensive ce jeudi matin contre les rebelles du M23 et leurs alliés dans la cité de Bunagana. C'est dans les territoires de Rutshuru. Selon les sources civiles et militaires dans la région, les combats ont commencé autour de 6 heures, heure locale. L'armée a comme objectif principal de reprendre coûte que coûte le contrôle de la cité. Bernard Nyangi.
Ces affrontements interviennent tout ce jeudi au quatrième jour d'occupation de Bunagana par les rebelles, qualifiés de terroristes du M23. Le porte-parole des opérations Sokola 2, le major Guillaume Ndjike, promet de fournir plus tard les détails sur cette opération. Les sources locales témoignent que c'est depuis 6 heures locales que les forces armées de la RDC ont lancé cette offensive après une tentative des rebelles de déborder leur position d'après-midi sur Tchengirero hier après-midi en attaquant à partir du village de Rubavu, un groupement voisin de Busanza, au nord de Bunagana. Ce jeudi, autour de 10 heures locales, affirment certains témoignages. Certains n'ont pas hésité à enlever leur tenue militaire pour fuir en tenue civile, affirment certains témoignages parmi les habitants de Bunagana en déplacement à Kisoro, de l'autre côté de la frontière sur le territoire ougandais. Des cas de vindicte populaire sont même signalés dans la zone. Des civils déplacés à Kisoro se seraient pris aux présumés combattants M23 en fuite et dont un aurait été lapidé, rapporte ce témoignage. En cette fin de la matinée ce jeudi, il n'y avait pas encore de précision sur qui des FARDC ou des rebelles contrôlent une partie ou la totalité de la cité de Bunagana. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Entre-temps, le président kenyan Uhuru Kenyatta a appelé hier mercredi au déploiement d'une force régionale dans l'est de la RDC afin d'y rétablir la paix. Selon lui, cette force des pays de la communauté de l'Afrique de l'Est doit être déployée dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les propos du président Uhuru Kenyatta sont résumés ici par Blaise Ndongala.
Dans son communiqué, le président kenyan estime que les conflits ouverts en cours dans l'Est de la RDC menacent de faire dérailler les efforts politiques destinés à rétablir l'ordre au Congo-Kinshasa, dont la population est estimée à environ 90 millions. Les chefs militaires régionaux de sept pays de l'EAC doivent se retrouver dimanche 19 juin afin de mettre au point les préparatifs pour le déploiement de la force régionale, a souligné Uhuru Kenyatta. La force régionale de l'Afrique de l'Est doit être immédiatement déployée dans les provinces de l'Ituri, du Nord et Sud Kivu, pour stabiliser la zone et imposer la paix en appui aux forces de sécurité de la RDC et en étroite coordination de la MONUSCO, ajoute les mêmes communiqués. La force régionale travaillera avec les autorités provinciales locales pour soutenir les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation afin de créer des conditions propices à la stabilité et à la paix dans l'est de la RDC. Rappelons que le 13 juin courant, l'M23 s'est emparé de la cité de Bunagana, située à la frontière ougandaise. Et l'armée congolaise a accusé les Rwandais d'invasion de son territoire. Des allégations qui rejettent Kigali.
Pendant ces temps, en Ituri, les leaders du groupe armé URDPC Codeco ont remis ce mercredi au gouverneur de province leur acte d'engagement de cessation unilatérale des hostilités. Dans leur déclaration, ils disent répondre à l'appel du chef de l'État d'adhérer au processus de paix. Ce groupe armé s'est dit favorable au programme de DDRCS qui, selon ses leaders, doit être accéléré par le gouvernement. Le gouverneur de province appelle d'autres groupes armés qui tardent encore à leur emboîter les pas. De l'événement, Martial Kizabiamungu.
C'est devant les autorités provinciales et de la MONUSCO ainsi que des nombreux habitants que les leaders du groupe armé IRDPC Barco-Deco ont déclaré solennellement leur engagement d'adhésion au processus de paix à l'Ituri. Désiré Londroma Djokpa, chargé de défense de ces mouvements armés, dit, je cite, « Nous sommes prêts à soutenir toute initiative du chef de l'État pour bâtir une paix durable dans notre province. » Fait des citations. Cependant, il demande au gouvernement d'user des pressions diplomatiques que sur les pays étrangers qui soutiennent la milice Zaïre pour que ce processus arrive à terme. Les gouverneurs des provinces encouragent l'IRDPC, Barco-Deco et les autres groupes armés qui ne se sont pas encore engagés à emboîter les pas à la Codeco. Le général Johnny Loboya Kachama.
Surtout, ne l'oubliez pas, ça sera le plus beau cadeau que nous pourrons offrir à notre progéniture.
Pour la coordination de la société civile, les forces vives de l'Ituri, cet acte de IRDPC marque le début du processus de pacification de l'Ituri. Didonné Lossa.
Codeco a écouté nos multiples appels.
Notons que c'est le troisième groupe armé à s'engager pour la paix en Ituri après la FRPI en janvier 2020 et le FPIC le 31 mai dernier. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Autre nouvelle, près de 70 personnes sont admises dans différentes formations sanitaires de la ville de Kikwit après une fête de mariage dimanche 12 juin dernier. Nous sommes dans la province du Kwilu. Ces personnes qui présentent comme signes notamment la diarrhée et les vomissements seraient victimes d'une intoxication alimentaire, pense le maire de la ville, Léonard Moutangou, et le président de la société civile urbaine, Laurent Bouenia, qui l'ont dit ce jeudi 16 juin à Radio Okapi. Léonard Moutangou vient de saisir le parquet près le tribunal de paix de Kikwit pour enquêter sur les causes de cette intoxication. Les explications de Irène Mbouma.
Parmi les 250 personnes qui ont pris part à cette fête de mariage la soirée du dimanche dernier dans la salle des fêtes Lupemba à Kikwit, plus de 70, dont les couples à l'honneur et ses enfants, ont été internés à l'hôpital général de référence de Kikwit et dans d'autres formations sanitaires depuis lundi. Ces personnes ont présenté les mêmes signes cliniques, entre autres la diarrhée, les vomissements, la colique abdominale et l'asthénie physique. Léonard Moutangou, maire de la ville de Kikwit, dit avoir saisi la justice pour enquêter à ce sujet.
C'est la famille, les membres de la famille qui ont préparé. Même le marié se trouve aussi à l'hôpital. J'ai demandé au parquet d'enquêter. Ils ont indiqué là où ils avaient acheté les vivres. Donc jusque-là, on ne sait pas l'origine de cette intoxication.
Laurent Bouenia, président de la société civile de Kikwit, qui confirme cette information, s'exprime en ces mots.
Les gens sont à l'hôpital réellement, mais la situation n'est pas très très alarmante. Mais jusque-là, on est dans les enquêtes pour savoir la cause de cette intoxication. D'ailleurs, le gestionnaire de ce lieu-là répond à l'invitation du parquet près de Tripec.
Invité pour enquêter sur l'origine de cette intoxication alimentaire, l'Office congolais de contrôle, OCC en sigle, acquise une difficulté de matériel, a indiqué le maire de Kikwit. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre nouvelle, en Ituri, la MONUSCO a remis mercredi deux projets de développement communautaire aux autorités provinciales à Bounia. Il s'agit d'une adduction d'eau potable à la prison centrale de Bounia et de 198 lampadaires solaires installés à travers certaines artères de la ville. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appui aux institutions de l'État et de la réduction des violences communautaires. Le maire de la ville de Bounia, qui a réceptionné ces ouvrages, salue ce geste de la MONUSCO qui rentre dans le cadre de la protection des civils. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Le premier projet d'adduction d'eau potable à la prison centrale de Bounia a été initié par l'unité pénitentiaire de la MONUSCO. Il s'agit d'un puits de 30 mètres de profondeur et de deux citernes de stockage d'eau de 5000 litres chacun. Le directeur de cette prison salue cet appui de la MONUSCO qui, selon lui, va réduire sensiblement les taux de mortalité et surtout des maladies hydriques dans cette maison carcérale. Camille Zonzi.
Nous avons beaucoup de gens, ici à Palisienne, étant donné que nous avons maintenant de l'eau à permanence. Les détenus peuvent quand même se désaltérer. Et puis les taux de la maladie pourra aussi baisser.
Le deuxième projet remis par la MONUSCO mercredi aux autorités provinciales est celui d'installation des 198 poteaux d'éclairage public sur trois axes de la ville. Le maire de la ville de Bounia, qui a réceptionné ce projet au nom du gouverneur des provinces, salue cet autre appui de la MONUSCO qui, selon lui, va au-delà de l'éclairage public.
Là où le hors-la-loi s'est caché dans l'obscurité, il ne pourront plus le faire. Aujourd'hui, nous avons la MONUSCO qui montre à la face du monde juste pour nous appuyer dans nos actions de sécurité.
Signalons que plusieurs autres projets à impact rapide de la MONUSCO sont en cours d'exécution, notamment l'octroi des panneaux solaires à des radios communautaires de Bounia où la desserte en électricité demeure un problème. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Entre-temps, dans la province du Maniema, l'agence belge de développement Enabel a officiellement remis hier mercredi 15 juin aux autorités provinciales les réseaux d'eau potable mis en œuvre par cette agence. C'est dans le cadre de son projet extension et consolidation des systèmes d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. Selon le chef de projet, son agence a réhabilité et construit, avec le financement du Royaume de la Belgique, 6 systèmes d'eau potable en vue d'augmenter les taux de la desserte en eau potable. Florence Kizalunga, reportage.
Le programme Eau Maniema a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations rurales et périurbaines. Ces 6 systèmes d'eau potable vont desservir une population évaluée à environ 140 000 personnes dans la ville de Kindu, ses environs et les territoires de Kailo. Antoine Messou demande une bonne utilisation de ces infrastructures hydrauliques.
Nous espérons une viabilité à long terme, non seulement pour tous les ouvrages hydrauliques construits, mais à la bonne gouvernance dans la gestion. Ici, nous nous adressons aux AGIREP, aux autorités de sécuriser tous les ouvrages et à la population de se prendre en charge en payant les coûts du service de l'eau, pas les coûts de l'eau.
L'autorité provinciale a quant à lui attiré l'attention des habitants sur l'utilisation de ces dons de la Belgique. Afan Idrissa.
Nous demandons à la population bénéficiaire de toutes ces infrastructures hydrauliques de les utiliser à mot père des familles et aux entités de jouer pleinement leur rôle en cas qualité des représentants de l'État bénéficiaire. Nous venons de remercier une fois de plus le projet Enabel.
Signalons que le coût total de ces travaux est évalué à plus de 6 millions de dollars américains. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Ouganda, l'opposant ougandais et ancien candidat à la présidentielle Kizza Besigye a été écroué et inculpé d'incitation à la violence pour la seconde fois en un mois, a annoncé ce jeudi son avocat. Critique historique du président Yoweri Kaguta Museveni, Kizza Besigye, 66 ans, a récemment conduit plusieurs protestations contre la hausse du coût de la vie frappant l'Ouganda comme l'ensemble du continent africain en conséquence de la guerre en Ukraine. Et puis, au 113e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce jeudi 16 juin, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre italien Mario Draghi sont arrivés dans la capitale ukrainienne pour apporter le soutien des Européens face à l'agression russe.
L'invité.
Le monde célèbre ce 16 juin la journée de l'enfant africain sous le thème « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques et pratiques depuis 2022 ». Pendant ces temps, les groupes armés continuent de recruter des enfants dans leur rang dans la région de Beni-Boutembo et Lubero-Nord-Kivu. Une situation qui viole les droits fondamentaux de l'enfant. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Bernard Okanda de la section protection de l'enfant de la MONUSCO dans la région. Il s'entretient ici avec Martial Papi Moukeba. Suivez.
Bernard Okanda, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que représente la journée de l'enfant africain?
Ça représente un moment où les différents acteurs, que ce soit du côté de la société civile, du gouvernement, des organisations internationales, se joignent aux efforts des enfants pour les remettre dans leurs droits le plus inhérent à la vie, en souvenir bien sûr de ce qui s'est passé à Soweto où les enfants étaient massacrés alors qu'ils étaient en train de demander les droits d'être enseignés dans leur propre langue.
Et quels sont les droits fondamentaux des enfants?
Il y a plusieurs droits, et la plus connue, c'est le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la liberté, parce que l'enfant aussi a la liberté, il doit s'exprimer librement, exprimer aussi ses opinions, donc il y en a plusieurs.
Et quelle est la situation des enfants dans la région de Beni, Boutembo et Lubero?
C'est une région qui est affectée par les conflits armés. La situation des enfants est un peu inquiétante parce que l'impact des conflits armés est réel avec de multiples violations que nous enregistrons, entre autres le recrutement des enfants dans les groupes armés, les violences sexuelles sur les enfants, enlèvement, tuerie, mutilation des enfants. Il y a même des écoles des fois qui sont attaquées par les groupes armés, les écoles qui sont occupées, des hôpitaux. Donc, panoplie de violations que nous enregistrons dans notre zone qui sont liées aux conflits armés, justement.
Est-ce que ces six derniers mois, il y a eu des cas des violations des droits des enfants dans la région de Beni, Boutembo et Lubero?
Oui, il y en a. Nous sommes plus inquiets par rapport au recrutement des enfants que nous ne cessons d'enregistrer parce que chaque fois nous appelons à la communauté de fournir des efforts pour éradiquer ces phénomènes-là parce que lorsque l'enfant est recruté, il ne peut pas aller à l'école.
Vous parlez du recrutement des enfants par les groupes armés?
Justement, le recrutement des enfants par les groupes armés. Lorsque l'enfant est recruté, c'est tout son avenir qui est gâché. Son école est interrompue, sa croissance en famille est interrompue, donc ça affecte presque tous les droits des enfants lorsque l'enfant est recruté dans les groupes armés.
Quels sont les groupes qui se sont beaucoup plus manifestés dans les recrutements des enfants dans la région?
Comme vous le savez, ce n'est qu'un secret révolutionnaire. Le recrutement des enfants, en première ligne, nous voyons les EDF qui non seulement recrutent, enlèvent, tuent les enfants dans cette zone ici. Nous avons aussi les différents groupes Mai Mai aussi qui pullulent la zone, qui recrutent les enfants et surtout pendant cette période où le gouvernement congolais a engagé un dialogue à Nairobi avec les groupes armés, il y a certains qui croient que en gonflant les chiffres par le recrutement des enfants, ils vont être considérés. Ce que nous déplorons sérieusement.
Et ce recrutement se fait par risque ou c'est un recrutement volontaire?
Non, ce ne sont pas des recrutements volontaires. La plupart des cas sont des recrutements par risque. On fait croire aux enfants qu'on va vous donner un peu d'argent, vous allez avoir une bonne vie, vous allez bien manger. On miroite un peu aux enfants. Ce sont des recrutements par risque.
Et quel est l'apport de la MONUSCO pour faciliter la sortie des enfants des groupes armés actifs dans la région.
Depuis 2018 jusqu'à ce jour, la MONUSCO s'est engagée dans ce que nous appelons la stratégie de communication avec les groupes armés. Nous communiquons avec les groupes armés, leur faisant voir que les enfants, leur place n'est pas dans les groupes armés. Au travers de ces communications-là, ils acceptent de libérer un certain nombre d'enfants qu'ils ont avec eux parce que nous signons, d'après tout, un acte d'engagement où les groupes armés s'engagent à ne plus recruter les enfants, à y mettre fin et aussi à libérer tous les enfants qui sont à leur sein. Ils arrivent à mettre les enfants à notre disposition pour les retours en famille et la réinsertion sociale. Économique.
Et lorsque les enfants arrivent à s'échapper des mains de ces groupes armés,
il faut qu'ils signalent. Ils signalent aux forces de défense et sécurité, soit à la MONUSCO, soit aux agences de protection qui sont dans les communautés, afin que l'enfant rentre dans le processus normal pour lui éviter toutes sortes de tracasseries et l'aider à bénéficier du programme de réinsertion socio-économique qui se développe, dont la MONUSCO a aussi apporté une petite contribution dans la communauté au travers de ses projets CIVIAR.
CIVIAR, c'est que veut dire?
Ce sont des projets qui luttent contre les violences dans les communautés.
Bernard Okanda, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.